Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture, 30 minutes de rencontres et de découvertes en Anjou. Avec moi aujourd'hui pour animer cette émission, les Bénédictes, bonjour.
Bonjour Marie.
Bonjour Marie.
Nous descendons tous d'un roi et d'un pendu, disait Jean de la Bruyère. La généalogie connaît un essor formidable depuis quelques années. La technologie, la numérisation des bases de données facilitent son accès. Mais peut-être aussi la recherche de repères dans une société qui, elle, en perd. Pour découvrir cet univers, nous avons interviewé Odile Lanciot, présidente de l'Association généalogique de l'Anjou. Nous avons tous la chance de parler une langue commune, le français. Mais d'une génération à l'autre, d'une expression à l'autre, est-on capable de se comprendre ? Que penser de l'évolution naturelle de notre langage ? Enrichissement ou appauvrissement ? Chronique sur les expressions de la Gen Z, aujourd'hui, on écoute le choc des cultures linguistiques avec Bénédicte Justeau. Et puis tout de suite, on pousse la porte d'un atelier angevin, dans la Doutre, pour le portrait d'une jeune créatrice textile, Carole Rampinetta, dont l'univers plein de peps nous a tapé dans l'œil. On commence tout de suite avec vous, Bénédicte Bossan. C'est parti pour 30 minutes ensemble.
Franche Culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Alors, quoi de mieux qu'un sujet gai et coloré au milieu de la grisaille de l'hiver, n'est-ce pas, Bénédicte ?
Absolument, Marie. Carole Rampinetta, bonjour. Vous êtes créatrice textile, vous imaginez travailler des motifs originaux que vous faites imprimer ensuite sur différents supports, tissus, papier, foulard, carton. Votre univers si coloré, si gai est à contre-courant de la tendance actuelle, toutes les nuances de gris. Parlez-nous de votre univers.
Alors j'ai un univers effectivement qui est très coloré, je m'inspire de tout ce qui m'entoure et notamment du pays où je suis née qui est le Maroc. Donc voilà, j'ai été nourrie d'énormément de couleurs. Je dessine depuis que je suis toute petite et je me suis plongée dans le tissu et maintenant je propose plein de motifs que je dessine à la main de manière traditionnelle. Donc gouache, aquarelle, crayon de couleur, je mélange tout et ensuite je les fais imprimer sur plein de supports différents comme vous avez dit.
Comment vous en êtes arrivée là ?
Alors, donc je dessine depuis toute petite et après j'ai eu un parcours un peu conventionnel, on va dire bac général scientifique. Mais voilà, la créativité était beaucoup plus forte que les sciences et donc je me suis lancée après le bac dans des études de mode où je me suis spécialisée ensuite en création scénique, en costume de scène. J'ai encore poussé l'aventure puisque je me suis ensuite formée en art de la scène, donc en tant que comédienne. Donc pendant un temps, j'étais sur scène et en coulisses, en tout cas un univers très coloré. Et suite à ça, ensuite, j'ai fait des travaux plutôt de styliste, plutôt classique. Et la couleur m'a manqué, je me suis replongée à mon compte dans les motifs vraiment colorés.
Donc vous avez un double cursus, d'une part le dessin, d'autre part le stylisme et tout ce qui est couture.
C'est ça, j'ai un double cursus qui est le stylisme-modélisme, avec une petite spécialisation en costume de scène.
Alors, comment passe-t-on d'un dessin à un tissu ? Comment vous imaginez ? Parce que quand on a un dessin sur une feuille A4, comment imaginer ce que ça va donner sur répéter des milliers de fois sur un tissu ?
Alors ça, c'est la magie de la mise en page. Donc moi, je dessine plein d'éléments différents sur des feuilles. Ensuite, je les scanne sur l'ordinateur. Et donc, je vais avoir le travail informatique à ce moment-là, qui est de mettre en page tous les éléments que j'ai dessinés pour former un fichier qui s'appelle un fichier au raccord et qui, lui, va pouvoir se répéter à l'infini, aussi bien horizontalement que verticalement, et créer un motif qu'on appelle all over, donc c'est-à-dire qui se répète indéfiniment.
Et ensuite, vous le faites imprimer sur du tissu, vous le faites imprimer où ? Comment vous avez choisi les gens qui imprimaient vos tissus ?
Alors là, ça a été une longue démarche, beaucoup de recherches. J'ai toqué à pas mal de portes, j'ai essayé d'avoir beaucoup d'échantillons pour trouver le fournisseur qui était le plus fidèle aussi au niveau colorimétrie de mes dessins, parce que j'ai des motifs qui sont vraiment très colorés, qui sont vraiment pigmentés. Donc voilà, il y a eu beaucoup de recherches. Trouver aussi les fournisseurs qui accompagnent les jeunes créateurs et qui ne demandent pas obligatoirement des métrages beaucoup trop importants pour se lancer. Donc voilà, ça a été beaucoup de recherches. Mais je suis quand même très chanceuse et ravie d'avoir trouvé en France. Donc la majorité de mes tissus sont imprimés en France. Et j'ai juste trois matières qui sont imprimées aux Pays-Bas.
Parce que vous avez des matières différentes ?
C'est ça. Pour le tissu, j'ai plein de matières différentes. Donc, le tissu est à destination de ceux qui aiment coudre. Donc, pour les particuliers, c'est vraiment comme une mercerie. Je vends du tissu au mètre, sauf que voilà, le tissu que je propose est original et on le trouve que chez moi. Et ensuite, j'ai plein de matières différentes suivant les projets que l'on va coudre. Donc, aussi bien du satin de coton pour de la petite chemiserie ou alors même des matières plus techniques pour coudre ses propres maillots de bain comme le lycra ou les tissus pour faire des shorts de bain.
Vous avez combien de sortes de tissus ?
Oh, je pense que je dois avoir une dizaine de matières différentes. Et alors après, en nombre de motifs, je crois que je suis à 200 aujourd'hui.
Ah oui. Et vous faites aussi des foulards ?
C'est ça. Donc, en fait, l'aventure a commencé quand les personnes m'ont dit « Carole, c'est très beau les motifs que tu partages sur Instagram, mais nous, on aimerait pouvoir les coudre. » Donc, je me suis lancée dans le tissu et ensuite, j'ai eu le revers de la médaille où c'était « Ils sont très beaux tes tissus, mais moi, je ne sais pas coudre. » Donc, il a fallu trouver des produits pour essayer de toucher tous les clients. Et le foulard, ça reste du textile, donc c'était un bon produit pour commencer en termes de produits finis. Voilà, donc tous les foulards sont faits en polyester recyclé. Ils sont aussi imprimés en France. Et toutes les finitions, les roulottés et puis le boîtage, etc. sont faits par un ESAT, celui de Cholet.
Et vous ne faites pas uniquement du tissu, vous faites aussi du papier peint.
J'ai du papier peint. Donc là aussi, j'essaye d'être locale. Donc le papier peint imprimé à Cholet. En fait, à partir du moment où on dessine un motif, on peut ensuite s'amuser avec la taille et puis les supports du moment que ce soit juste imprimé. Donc voilà, il y a les foulards, il y a le papier peint, toute la papeterie, affiches, carnets, etc.
Et puzzle,
bien sûr. Voilà.
Comment est-ce qu'on peut être sûr du résultat, l'altération des couleurs, et par ailleurs, comment être sûr que le tissu va résister au lavage, à l'usure, comment vous pouvez en être sûr, comment vous faites des tests ?
Alors d'abord, avant de lancer les productions, moi j'envoie toujours des prototypes, donc des petits métrages que moi je vais tester aussi pour savoir si aussi le motif n'est pas trop grand ou trop petit et s'il fonctionne bien avec la matière que j'ai choisie. Et ensuite, les fournisseurs et les imprimeurs avec qui je travaille sont des imprimeurs professionnels, donc qui ont toute la chaîne de fixation des encres et qui ont aussi tous les apprêts pour vraiment que les encres résistent après au lavage, etc.
On a dit que vous étiez angevine, donc vous avez un site internet, mais on peut aussi vous rencontrer à Angers.
Oui, j'ai ouvert un atelier boutique 10 jours avant Noël, donc je suis au 6 rue Lyonnaise et on peut venir découvrir toutes mes collections de foulards, puzzles, tissus, papeterie. Et à partir de février, il y aura aussi des cours de couture et d'illustration.
Ah ça y est, vous élargissez votre panel.
C'est ça, voilà.
Bon, merci Carole d'apporter autant de gaieté dans notre quotidien qui en a bien besoin.
Alors, vous pouvez retrouver toutes les informations, tous les produits sur le site internet de Carole Rampinetta. Et ben, merci de nous avoir découvert votre histoire.
Merci beaucoup à vous.
Alors, Isabelle, maintenant pour la généalogie. Isabelle, avez-vous fait votre arbre généalogique ?
Non, mais j'en ai bien l'intention depuis que j'ai compris que la généalogie permet d'en apprendre plus sur sa famille et donc sur soi-même. Et pour nous éclairer, j'ai invité Odile Lanciot, présidente de l'AGENA, Association Généalogique de l'Anjou. D'abord, l'AGENA, c'est une date de naissance, 1973, 700 adhérents, mais surtout une base de données sur l'Anjou de 6 500 000 actes de naissance, de mariage et de décès, qui peuvent remonter pour certains jusqu'à la fin du XVe siècle. Odile Lanciot, bonjour.
Bonjour.
Alors, pourquoi fait-on sa généalogie ? J'imagine que les motivations sont multiples.
Oui, il y a plusieurs raisons de faire sa généalogie. Il y a le souhait de remonter ses ancêtres, les connaître un peu mieux, mais aussi on a des personnes qui viennent parce qu'il y a un nom qui les intrigue, un parcours qui les intrigue, un secret de famille. On a aussi des personnes qui viennent parce que dans leurs ancêtres, ils ont un enfant abandonné et qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. Il y a toujours un souhait de rechercher d'où l'on vient.
Et certainement de résoudre les mystères aussi.
D'essayer de résoudre les mystères. C'est une véritable enquête.
Donc il y a sûrement des secrets de famille qui sont dévoilés à cette occasion, des branches oubliées qui ressuscitent.
Ça peut arriver.
Des légendes familiales qui se créent.
Des légendes familiales qui ne se révèlent fausses aussi, parce que cela arrive. Hein. Des choses qui circulent sur une famille et en fait qui se révèlent, quand on recherche les actes, qui se révèlent fausses.
Donc beaucoup de découvertes.
Beaucoup de découvertes.
Alors dites-moi, comment commence-t-on ?
Alors, pour commencer sa généalogie, eh bien, il faut rassembler le plus de documents papier, si l'on veut, pour commencer. Il faut rechercher. Les livrets de famille sont très importants, des faire-part, que ce soit des faire-part de mariage, des faire-part de décès, des différents faire-part. Avant, on faisait tout sur papier, donc rechercher tout ça, rechercher les livrets militaires, des cartes d'identité. Bon, le plus important, c'est sûrement quand on peut avoir des livrets de famille, c'est quand même... Un livret de famille donne déjà des renseignements sur ses parents et sur ses grands-parents. Donc déjà, c'est déjà important.
Et vous m'aviez parlé aussi des photos anciennes.
Alors avec les photos anciennes, on a beaucoup de personnes qui regrettent de ne pas avoir gardé les photos ou trucs comme ça. Bon, bien souvent, les photos ne sont pas annotées, ce qui est bien dommage. Bon, mais déjà, on arrive à situer les années. Après, on arrive à retrouver certaines personnes. Après, les photos remontent jusqu'au début du XXe siècle, fin XIXe. Donc, c'est une source précieuse de renseignements.
Et à l'époque, elles étaient souvent légendées dans les albums photos, j'imagine.
Pas toujours. Mais on arrive au moins à situer les époques des photos. Par exemple, une photo de mariage, une photo de groupe de mariage, quand on regarde les costumes, quand on regarde les robes et tout ça, on peut dater. Les photos et les années.
Ah oui, c'est une vraie enquête.
Oui, oui.
Alors, la démarche, elle se fait en plusieurs temps, j'imagine, un deuxième temps peut-être. Après les papiers, on explore peut-être les archives.
Alors, bien sûr, on peut tout faire par Internet maintenant, mais il faut toujours un papier et un crayon. Parce que sur un acte, que ce soit un acte de mariage, un acte de naissance ou un acte de décès, il y a des renseignements dessus. Donc, il faut noter tout. Et il faut noter avec les références. Ce qui peut servir ultérieurement pour faire ses recherches. Ça évite de rechercher un acte, ça évite tout ça si on prend déjà tous les renseignements au premier. Donc le papier et le crayon bois sont toujours bien utiles.
Et la consultation de registres d'état civil, des actes paroissiaux, les actes notariés,
tout ça,
les recensements, j'imagine, sont...
Oui, alors oui, les recensements aussi, parce que ça indique le parcours. Mais il faut commencer, on commence en général pour faire sa généalogie avec les actes de mariage. C'est avec un acte de mariage qu'on arrive à assurer de l'ascendance.
Et alors, comment on organise l'arbre ? L'arbre, ça se fait à la main ? Ça se fait comment ?
Alors, l'arbre peut se faire à la main. On commence à la main, bien sûr. Alors, il y a une numérotation qui s'appelle la numérotation Sosa-Stradonitz qui aide à... Il y en a d'autres, numérotations. Mais celle-ci, c'est la plus utilisée en généalogie, la numérotation Sosa-Stradonitz. C'est-à-dire que la personne qui commence à faire son arbre, elle commence par le numéro 1. Et ensuite, ses parents, ça sera son père, ça sera le numéro 2. Sa mère, ça sera le numéro 3. Ensuite, le grand-père, ça sera le numéro 4. Et la grand-mère paternelle sera numéro 5. Du côté maternel, c'est la grand-mère ou la mère, c'est le numéro 3. Donc la grand-mère, ça sera le numéro 6. Et le grand-père, pardon, sera le numéro 6 et le numéro 7 pour son épouse. Les hommes ont toujours un numéro pair. Les femmes ont toujours un numéro impair. Quand on arrive à des nombres, je ne sais pas, 644 par exemple, on ne sait plus trop où on en est dans sa généalogie. Ce sont toujours des ascendants. C'est valable pour une généalogie ascendante. Donc, si on divise par deux, il arrive un moment où on va tomber sur un nom qui va nous dire quelque chose. 644, on divise par deux, 322, on divise encore par deux, et on va arriver à quelqu'un qui nous est plus proche. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve dans les actes.
Et ça nous aide aussi à s'y retrouver au niveau des siècles.
Oui. Ben oui, parce que quand on arrive au 19e, quand on passe après les registres paroissiaux au 18e, bien ça aide, hein, on rebonde vite dans les arbres. Hein. Quand on arrive à la 10e génération, on a quand même beaucoup d'ascendants. Direct.
C'est sûr.
Ascendants directs.
Et donc l'arbre, ça se fait à la main ou ça se fait aussi via des logiciels aujourd'hui ?
Ça se fait aussi via les logiciels. Auparavant, on faisait des petits papiers qu'on rajoutait les uns aux autres. Maintenant, ça se fait avec des logiciels. Il y a des logiciels comme Eredis ou Généatic qui sont des logiciels qui suffit de rentrer tout ce qu'on a, les renseignements que l'on a et ça dresse l'arbre et après on peut l'imprimer.
D'accord. Odile Lanciot, quel est le rôle des archives départementales et qui trouve-t-on exactement ? Des actes paroissiaux ?
Alors, dans les archives départementales, on trouve tous les actes d'état civil et des registres d'état civil et des registres paroissiaux. Les registres paroissiaux, ce sont les registres avant la Révolution, qui étaient écrits par les curés dans les paroisses. Mais aux archives départementales, on trouve tout jusqu'en numérisé jusqu'en 1902. Donc il faut, quand on cherche une généalogie, il faut, même si on passe par un site où les généalogies sont faites, par certains sites, il y a certains sites qu'on trouve sur Internet, comme Généanet ou Philae, quand on trouve un acte ou qu'on trouve un mariage, par exemple, il faut aller aux archives départementales, vérifier vraiment l'acte pour savoir si c'est bien la bonne personne et que ça correspond bien à la généalogie, à notre propre généalogie. Il faut, c'est à ça. Et les archives départementales ont aussi d'autres ressources, comme les fiches matricules, qui sont les fiches des militaires, les cadastres, le cadastre, les fiches cadastrales, cadastre napoléonien. On trouve plein de choses sur les archives départementales. Il y a d'autres sources, il y a des photos aussi, il y a des... ce qu'on peut trouver.
Et dans les actes paroissiaux, quand on regarde ça, on retrouve quoi? Des certificats de baptême, des actes de naissance?
On trouve quoi? Dans les registres paroissiaux, alors dans les registres d'état civil, après le code napoléonien, on a des renseignements comme la date de naissance, les noms des parents, on a le nom des témoins, et au fil du temps, ça s'est amélioré avec les adresses, avec les métiers, avec d'autres renseignements, même sur les témoins. Pour les registres paroissiaux, on a le baptême avec la date, bien sûr, et les parrains et marraines. Et les parents, les parrains et les marraines.
Ah oui, donc tout ça, c'est une mine d'or.
Ah ben oui.
Et en préparant l'émission, vous m'avez parlé des délais de communicabilité des archives publiques. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Parce que j'étais quand même scotchée par ce que vous m'avez dit.
Alors, les actes de mariage et les actes de baptême sont consultables 75 ans en arrière. Enfin, avant les 75 ans. Si vous voulez, là, on pourrait consulter les actes de mariage et baptême avant 1950. On n'est pas à la fin de 2025, pardon. Donc, avant 1950.
Et après...
Et les décès sont consultables dès le lendemain du décès.
Et de 1950 à nos jours?
Eh bien, on n'a que les ascendants, les descendants directs.
Et pour les ascendants?
Et pour les ascendants, on ne peut pas trouver les ascendants. Nous, on ne peut pas faire de recherche au-delà de 1950 actuellement.
C'est quand même très étonnant. Alors justement, est-ce que vous pouvez me reparler des logiciels de généalogie que vous utilisez pour débuter une recherche généalogique?
Alors, on s'aide de certains logiciels commerciaux qui existent, comme Philae, comme Généanet. Il y en a d'autres, hein, mais ce sont les deux plus importants. Hein. Il y a MyHeritage, mais bon, ce sont des sites qui dépendent les uns des autres. Donc, il y a Family Search aussi. Et il y a certaines personnes qui font leur généalogie qu'avec ça, mais il faut toujours vérifier les actes pour savoir. Il peut y avoir des homonymies, faut être bien sûr que ça soit ses ascendants.
Donc, quelles sont leurs limites à ces sites, justement?
Les limites, c'est que c'est recopier, des personnes prennent ce qu'il y a sur Généanet, par exemple, hein, mais c'est la même chose pour Philae, et on les prend, on les copie, on dit c'est le même nom, on le prend, mais sans vérifier. Et donc, ça entraîne plein d'erreurs. Ça entraîne des erreurs, on va dire. D'accord. Plein. C'est exagéré, mais des erreurs.
Et qu'est-ce qu'on découvre souvent en faisant des recherches?
Alors, en faisant des recherches, on trouvait des surprises. On a beaucoup de personnes qui recherchent leur généalogie, puis qui nous disent « Mais mon nom, ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit, par exemple, à la fin, A-U-L-T. » Si je prends un exemple, Barreau, A-U-L-T. Et en fait, ça peut... Au cours du temps, ça peut très bien être modifié. Les noms n'ont été figés qu'à la fin du 19e. Donc, auparavant, notamment avec les registres paroissiaux, on peut trouver des choses un peu bizarres dans les noms. Hein. Moi, une anecdote, c'est que je relevais des naissances dans une famille qui s'appelait Lefroy. Lefroy, les enfants, il y avait un enfant tous les deux ans qui s'appelait Lefroy. Bon, à l'époque, il y avait beaucoup d'enfants. Et tout d'un coup, il y en a un qui, dans la descendance, s'appelait Lefray. L-E-F-R-E-T. Et en fait, il s'est révélé qu'il avait les mêmes parents, mais dans le patois angevin, quand il fait froid, on dit il fait fret. Donc, il s'appelait Lefret. Et il s'est toujours appelé Lefray, L-E-F-R-E-T, alors que le nom de la famille, c'était Lefroy.
Et là, on a quel siècle quand vous découvrez ça?
Alors ça, on est à la fin du 18e, juste 18e. Avant la Révolution.
D'accord, donc j'imagine aussi qu'on découvre des ancêtres dont personne n'avait parlé, des métiers disparus,
on trouve des métiers de qui sont surprenants, on trouve des... Les gens voyageaient beaucoup plus qu'on ne peut le penser. On dit souvent que dans le milieu rural, les gens bougeaient pas. Effectivement, on peut retrouver dans le même village des mariages, on peut trouver une descendance dans les mêmes villages, mais les gens bougeaient plus qu'on ne peut le penser. Notamment entre deux départements. Il peut y avoir, ça peut passer d'un département à l'autre. Parce que ce que je parle là, c'est nous, notre base, c'est que sur le Maine-et-Loire.
Alors j'ai même lu récemment dans Ouest France que la généalogie permettait de faire avancer les enquêtes criminelles. Tout à fait récemment, là, à Poitiers, les enquêteurs ont retrouvé la trace d'un homme de 28 ans qui avait agressé une femme en 2015 grâce à la généalogie génétique, qui est une pratique encore rare en France, mais qui a déjà permis de résoudre certaines affaires dans le monde. Et aux États-Unis, un dossier a connu une avancée majeure en confrontant justement un ADN prélevé sur une scène de crime avec des bases de données privées contenant les ADN de citoyens lambda qui cherchaient à en apprendre plus sur leurs ancêtres, et ça a marché. Et même dans une autre affaire, les enquêteurs ont trouvé sur le site MyHeritage la trace du cousin éloigné d'un tueur et ont pu remonter jusqu'à lui. Alors Odile Lancio, en dehors des affaires criminelles, est-ce que vous avez quelques anecdotes à nous confier suite à vos recherches?
Par rapport à la génétique, bon, les tests ne sont pas autorisés en France, donc on ne peut pas. On a des personnes qui le font à leur propre frais, mais là, maintenant, pour les affaires criminelles, ça sera autre chose. Par rapport aux anecdotes, des recherches surprenantes, des personnes qui ont voyagé, qu'on a trouvées loin, même des personnes qui sont parties en Amérique du Sud. À certaines époques, il y a eu des immigrations vers l'Amérique du Sud, et on a des personnes qui retrouvent, oui, des ancêtres là-bas, en Amérique du Sud ou ailleurs, hein.
C'est formidable. Est-ce que vous voulez ajouter quelques mots sur la GENA?
Alors la GENA, vous l'avez dit dans votre introduction, mais la GENA, c'est une association donc, qui existe depuis plus de 50 ans et dont le rôle, au début, était de relever les actes de mariage pour permettre aux adhérents de retrouver leur ascendance. Et au fil du temps, on a inséré alors les mariages au départ, et maintenant on a les actes de naissance, les actes de décès, pour le 18e, les baptêmes et les sépultures. Et on a, sur notre base, on a 6 500 000 actes. Donc, en adhérant à l'association, on peut accéder à cette base avec un code. Et on peut. Et nous, au niveau de l'association, ce qu'on fait aussi et ce qu'on propose à nos adhérents, ce sont des formations sur les méthodes, sur différents thèmes qui peuvent les aider, comme décrypter ou trouver des actes notariés sur différentes. On a une bibliothèque aussi importante qui est accessible aux adhérents au local, qui se trouve à l'hôtel du roi de Pologne.
Alors, vous l'aurez compris, la généalogie est une aventure humaine, un puzzle fait d'histoires et de traces laissées dans le temps. Et comme le dit un proverbe chinois, oublier ses ancêtres, c'est être un ruisseau sans source, un arbre sans racines. Odile Lancio, merci.
Merci.
Franche culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Alors on dit merci à Isabelle et Odile. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous directement sur le site agena@agena49.org pour retrouver toutes les informations. On va faire une petite pause musicale avec les Supertramp, Breakfast in America. There's not a lot I can do. On a écouté Supertramp, Breakfast in America. Et puis, on va passer à notre billet. Toujours sur France Culture, Radio Campus Angers.
Le billet d'humeur.
Alors attention, on se concentre bien. Si vous avez plus de 40 ans, munissez-vous d'un dictionnaire français vif ou d'un traducteur stagiaire.
Si vous avez plus de 40 ans, vous parlez encore le vieux français. Pour vous, quelque chose de réussi est super, génial ou au summum de l'audace, épatant. Pour la génération Z, ces mots sont des pièces de musée. La génération X a grandi avec le verlan, c'était chamé, c'était rebelle. La génération Z a décidé que le français était une option facultative dans une phrase composée à 70% d'anglicisme et d'abréviation. Exprimer le niveau supérieur du « génial », on dira « c'est trop masterclass ». Ça vaut pour un café réussi ou une vidéo de 6 secondes où quelqu'un glisse sur une peau de banane. Bon, le coup de la peau de banane, c'est nul, j'avoue. En 1990, on disait « ça craint ». Et en 2026, on lâche un « c'est éteint ». Et si t'es en pétard à la soirée de ta fac, en 1990, t'étais furibard, enragé parce qu'on t'avait renversé une bière sur ton jean. Mais en 2026, être en pétard, c'est exactement l'inverse. Tu as trop kiffé la soirée, t'avais une DA de malade, ta direction artistique, ton style personnel était impeccable. Bref, t'étais au sommet. Après la soirée, t'es allé au McDo. T'avais la dalle, t'as pris leur nouveau Big Mac. C'était vraiment un banger, c'était de la frappe. Vraiment, c'était hyper bon. Et puis le lendemain, t'es allé voir ton grand-père et il t'a tunnel sur la Première Guerre mondiale. Il t'a tenu le crachoir, tu pouvais pas en placer une, c'était long et ennuyeux. Le tunnel, c'est l'expression la plus imagée du moment. Papy m'a tunnel sur la guerre de 14, vous voyez l'idée ? Eh bien, c'est vous entrer dans la conversation, c'est noir, c'est long et vous ne voyez pas le bout de la sortie. C'est tenir le crachoir version 2.0. Et si tu n'es pas allé à la soirée de la fac, tu n'es pas juste déçu, tu as la FOMO. Tu as l'impression que le monde entier s'amuse sans toi, pendant que tu manges des pâtes. La FOMO, qui vient de l'acronyme anglais Fear of Missing Out. Et puis avec la mala, j'ai pas la mala, on pioche dans l'arabe. La mala, c'est le bien, la richesse. En gros, j'ai pas d'argent, je suis à sec, j'ai pas pu partir en vacances. Un petit dernier avec le rage kit, emprunté aux jeux vidéo. Ça m'est arrivé à Noël. On perd au Monopoly, on ne boot pas, on rage kit. On quitte la partie en rageant, souvent en renversant le plateau.
Eh bien. Bénédicte, peut-on regretter la perte de nuances dans le français d'aujourd'hui ?
Alors remplacer 10 adjectifs précis par « c'est incroyable » ou « c'est un banger », ça réduit mécaniquement la palette de couleurs de notre expression. C'est comme le passage de la peinture à l'huile au pixel art. Pourtant, la langue Z est d'une efficacité redoutable. Elle est imagée, rythmée, extrêmement communautaire. Elle crée du lien. Alors inventer des nouveaux mots, c'est une manière aussi de s'approprier un monde qui change trop vite. Le français ne meurt pas, il s'enrichit.
Bah Bénédicte alors, il faut appeler l'Académie française à la rescousse ou embrasser ce nouveau chaos ?
Alors, la langue française a toujours été un organisme vivant, pas un objet sous vitrine. Et la force du français, c'est sa capacité à absorber l'anglais, l'arabe, le langage informatique pour créer des images inédites. La langue est un muscle. Qu'elle s'exprime en alexandrin ou en hashtag, l'essentiel, c'est qu'elle continue de nous permettre de nous engueuler avec passion ou de nous déclarer notre flamme, même si c'est en disant « t'es mon crush », c'est trop une dinguerie. Alors peu importe les mots, l'important reste de lier les gens, même si pour ça, on doit passer par un petit tunnel de « du coup ».
Bah du coup, merci Bénédicte.
Vous le savez, je déteste cette expression.
Alors c'est la fin de ce Franche Culture, hein, du coup, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci à Elliot pour la technique. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h, le dimanche à 11h ou bien sûr en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.